franceinter.fr.
L'heure de la revue de presse d'Olivier Bénis. Bonjour Olivier.
Bonjour Hélène.
Le journal du dimanche publie aujourd'hui une interview de François de Rugy qui évoque ses projets pour tout changer à l'Assemblée.
Le président de la Chambre des députés dit vouloir une Assemblée nouvelle avec deux grands axes. Elle devrait être plus efficace et dans un certain sens plus morale. Côté efficacité, François de Rugy veut travailler sur des procédures plus courtes pour faire passer les lois. Que des engagements de campagne mettent autant de temps à devenir réalité, cela pose un vrai problème démocratique, dit-il. Il souhaite donc améliorer les navettes parlementaires, devenus selon lui des processus de répétition et pas d'enrichissement, ou de pouvoir examiner uniquement en commission certains textes. Côté moral, François de Rugy regrette que certains ne tirent pas les leçons de ce mauvais climat. Il souhaite donc plus de transparence, mais aussi l'alignement du mode de calcul des retraites des députés sur celui du régime général, ou la suppression de la gratuité sur le réseau SNCF dont bénéficient actuellement les anciens députés ayant fait plus de 3 mandats. L'idée pour le président de l'Assemblée nationale, c'est qu'on parle enfin des députés, non plus pour des soupçons, mais pour le travail qu'ils font, la fabrique de la loi et du budget.
Dans le magazine du Monde, l'histoire d'un road movie assez improbable, celui de Gilles Boyer et de Benoît Apparu.
Ils étaient respectivement directeurs de campagne et porte-parole d'Alain Juppé pendant la campagne de la primaire, et après avoir longtemps hésité, ils ont accepté de raconter à Philippe Ridet, pour Le Monde Magazine, cette incroyable nuit passée sur la route entre Paris et Bordeaux pour tenter d'aller convaincre Alain Juppé de se poser en recours à François Fillon. Tout commence le 5 mars, François Fillon vient de réussir son rassemblement au Trocadéro, et il annonce dans le 20h de France 2 qu'il ne se retirera pas. À cet instant précis, devant la télé de l'appartement de Thierry Solaire, il y a Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Gilles Boyer, Benoît Apparu et même Édouard Philippe, seul à rester de marbre face à l'annonce. Il est en train de jouer à Tetris sur son smartphone. Les autres sont abasourdis. Solaire résume l'état d'esprit de la soirée. Nous n'étions pas sûrs de gagner avec Juppé, mais on était sûrs de perdre avec Fillon. Les SMS, les coups de téléphone se multiplient pour supplier le maire de Bordeaux de renoncer à son discours du lendemain où il va annoncer qu'il ne sera pas un recours, pour l'instant en vain.
C'est alors qu'une idée folle germe dans l'esprit de Gilles Boyer.
Il se dit, au téléphone, on n'y arrivera pas, allons le voir. Benoît Apparu accepte de l'accompagner et les deux compères se retrouvent à 3h du matin, porte de Saint-Cloud à Paris, pour monter dans la Toyota hybride noire fabriquée à Valenciennes de Boyer. Une fois sur place, malgré les bouchons, la fatigue, ils arrivent à rencontrer le maire de Bordeaux qui les écoute, touché par leur effort. Mais Benoît Apparu comprend vite qu'il ne changera pas d'avis. On était trop crevés, au lieu de tenir un discours de politique, de tactique, on lui a parlé de son rôle face à l'histoire, de principe, tu parles. Il avait déjà tout donné. Psychologiquement, il n'était pas prêt à récupérer le manche. Il ne voulait pas se reprendre une nouvelle bastos. Alain Juppé ne change donc pas une ligne du texte qu'il leur a fait lire. Et tant mieux, dans un sens, pour Gilles Boyer, c'était son plus beau discours.
C'est à lire dans le magazine du Monde. Les jeunes militaires français ont le blues ?
Engagez-vous, rengagez-vous, qui disait la petite phrase des légionnaires d'Astérix, s'applique parfaitement au moral actuel des armées. Un point d'attention assure la hiérarchie militaire. En clair, le sujet est devenu hautement sensible, traduit Nathalie Guibert dans Le Monde. Elle explique que même l'élan patriotique après les attentats de 2015 et 2016 commence à s'essouffler. Et pour cause, les opérations extérieures, très valorisées par le pouvoir politique, aspirent les moyens disponibles et les énergies positives au prix d'un sacrifice de l'arrière où les mauvaises conditions de vie des soldats pèsent de plus en plus lourd. Constat déjà fait par l'ex-chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, en début d'année, qui disait 50% des soldats disent aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus concilier vie professionnelle et familiale. Pire, l'article met en avant la profonde lassitude des soldats qui participent à l'opération Sentinelle. Levé 5h, couché 23h, de 23 à 30 km parcourus par jour, 115 jours de terrain dans l'année, des congés annulés. Bastien, 3 ans de service, explique que Sentinelle a tout pour écœurer les nouveaux engagés. Il dit, on serait policier, on aurait des interventions, on bougerait, mais on ne peut intervenir sur rien. On est dans Paris, on marche toute la journée. Le terrorisme représente 0,00001% de l'activité. C'est frustrant à tous les niveaux. À force de ne rien faire de toute la journée, moi aussi je rumine.
Libération et Le Monde dressent ce matin le portrait d'un nouveau personnage fascinant de la galaxie Trump.
Antonio Scaramucci, surnommé The Mooch, le resquilleur, celui dont le New Republic dit qu'il est une sorte de mini-Trump, impétueux, hyper masculin, fidèle en amitié, rustre avec les femmes, doté de l'intelligence de la rue sans doute, mais pas vraiment intelligent. En photo, l'homme a le visage d'un Terminator dès qu'il met des lunettes de soleil avec des insultes gratinées en guise de cartouche. N'hésitez pas d'ailleurs à éloigner les oreilles sensibles de votre radio pendant les prochaines secondes de cette revue de presse, car Le Monde nous l'explique, Scaramucci a posé un véritable cas de conscience aux rédactions du monde entier. Tout le monde s'est demandé comment retranscrire fidèlement, mais sans choquer, ses propos envers un journaliste du New Yorker, dont il cherchait à connaître la source à la Maison Blanche. Un journal de bonne tenue peut-il normaliser pareille vulgarité, se demande le Washington Post, qui a préféré remplacer les nombreux « fuck » et « fucking » du texte par le fameux « F-word » que tout le monde comprend plus ou moins. Plus complexe, le passage où il affirme « Je ne suis pas Steve Bannon, je n'essaie pas de me sucer la bite, je suis là pour servir le pays ». Là encore, dilemme dans les rédactions. Le New York Times a publié les propos tels quels. MSNBC a remplacé pudiquement certains mots par de petits astérix. Quand CNN a préféré traduire, il accuse Steve Bannon de procéder sur lui-même à un acte impossible à accomplir.
Assez habile. Vous nous l'avez dit tel quel. Slate nous parle ce week-end du pire nanar du monde.
Alors vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce film. Il s'appelle The Room de l'américain Tommy Wiseau. Il est sorti en 2003 dans la plus totale discrétion. Et dans Slate, Thomas Messia nous raconte ce qui s'est passé après l'histoire de ce film, une histoire bien plus intéressante dans les années qui ont suivi sa sortie. On s'est échangé du copie des films sous le manteau, raconte-t-il. On se les projetait entre amis, c'est devenu une activité récurrente. Et puis, des salles de cinéma se sont mises à organiser des projections spéciales jusqu'à arriver devant les yeux des deux comédiens James Franco et Seth Rogen qui ont décidé de tourner un film hommage à ce nanar qui s'appelle The Disaster Artist. Tommy Wiseau, réalisateur, scénariste, producteur et acteur du film original, y est interprété par James Franco qui joue très bien le type qui joue très mal.
Action! I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
Alors, vous trouvez peut-être ça un petit peu exagéré. Ben, voici la version originale de Tommy Wiseau.
I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
C'est bluffant comme imitation. Hein. Le plus intriguant, c'est que depuis qu'il est devenu culte, le film a fait de son acteur, Tommy Wiseau, une sorte de légende vivante, mettant en lumière sa mégalomanie, son absence totale de recul et sa façon pathétique et touchante à la fois de tirer bénéfice des retombées inattendues du film. Car depuis, il participe à des conventions et des séances spéciales où il décrypte justement le film le plus sérieusement du monde. Et si finalement, c'était lui le plus malin dans l'histoire.
Histoire complète à lire sur slate.fr ce matin. Allez, on termine avec un petit cocktail.
Le Monde termine aujourd'hui sa série sur les apéros de l'été avec l'un des plus célèbres cocktails de l'histoire, le Mojito. Un article qui vaudrait presque uniquement d'ailleurs pour la recette du breuvage, qui est largement détaillée, mais qui nous en raconte aussi l'histoire, ou plutôt les histoires, puisque le Mojito est de ces boissons dont les origines sont aussi floues que votre regard après en avoir bu quelques-uns. On l'attribue selon les sources à Sir Francis Drake, dont un membre d'équipage aurait créé le cocktail après une cinglante défaite à Cuba, ou aux esclaves dans les champs de canne à sucre sur la même île, ou encore aux Américains qui fuyaient la prohibition et qui auraient adapté le cocktail Mint Julep en utilisant du rhum à la place du cognac ou du whisky de la recette initiale. Ce dont on est sûr en revanche, c'est que le Mojito est une manne financière pour une société française, Pernod Ricard, qui est propriétaire du rhum Havana Club et qui en vend par caisse entière dans plus de 120 pays, en grande partie grâce au cocktail sucré, à consommer avec modération évidemment.